Tom Walker et Leave a Light On au 96.9, c'est quoi? Vous avez peut-être été dans un embouteillage dans le coin d'Outremont au cours des derniers jours. Et si c'est le cas, il y a de bonnes chances que ça a été causé par la venue de Issachar Dov Rokic, qui est le chef spirituel des Bells, qui est une des nombreuses communautés juives hassidiques représentées à Montréal. Le gars est arrivé en jet privé. Il y avait 200 courtisans avec lui. La grosse affaire. Et pour nous éclairer sur le phénomène, on a avec nous Alain Pronkin, qui est spécialiste des religions. Bonjour Alain.
Oui, bonjour à vous tous.
Salut. Bonjour.
Alain, j'ai lu un article, entre autres, sur le site de Radio-Canada. On le compare à une rockstar. On dit que les jeunes s'échangent même des cartes à son effigie, un peu comme d'autres s'échangent des cartes de hockey. C'est vrai, ça?
Ben, je sais pas si on s'échange comme des cartes de hockey, mais c'est vraiment quelqu'un de très important pour la communauté belge, parce que c'est lui qui a fait construire la plus grande synagogue à Jérusalem qui peut contenir jusqu'à 6000 places. C'est vraiment, au niveau comme leader spirituel, c'est vraiment le gars qui domine là, le firmament là, chez les Belges. Ça, c'est certain.
Qu'est-ce qu'il est venu faire à Montréal, cet homme?
Ce qu'il est venu faire, c'est que il y a une responsabilité, comme chez les Belges. Belz, c'est juste le nom de la ville là, qui était entre la Pologne puis l'Ukraine.
Okay.
Les Belz proviennent de cette ville-là. Ben, lui, il a la responsabilité de toute la communauté Belz qui est maintenant au travers le monde. Parce qu'à l'époque, on était là-bas. Est arrivée la guerre mondiale. Il y avait un village de 6000 personnes où il y avait 1600 Belz. Et de mémoire, il y en a 1000 qui ont été exterminés dans un camp de concentration. Et par la suite, il y en a un autre 500 qui ont été tués dans les derniers jours de la guerre par les Allemands. Donc, il restait très peu de survivants. Et ils sont partis de là, ils n'avaient comme pas le choix, vers la Russie, vers Israël, vers les États-Unis, et ils ont repris. Mais ce n'est pas une grosse, grosse communauté.
Oui, puis si on revient au personnage, lui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un aura aussi rassembleur? Peux-tu nous faire un peu son background, là?
Lui, c'est le leader parce que chez les communautés comme chez les Belges, le flambeau, je peux utiliser l'expression, se passe de père en fils.
Ben, ouais.
Et c'est dans l'alliance directe. Donc, lui, il est en alliance directe avec les premiers Belges des années, fin des années 1700, début des années 1800. Et c'est lui qui a refondé, si on peut dire, la communauté après la guerre allemande. Il a toutes les constructions qu'il a faites, les hôpitaux. Il a travaillé très fort pour la communauté, de partie de rien, et il l'a remise sur ses rails. C'est pour ça que pour eux, il est super important. C'est vraiment un personnage très important pour la communauté belge, si vous voulez s'entendre.
Okay. Oui, absolument.
Allez, je veux qu'on profite de la venue de ce monsieur-là là, pour parler un petit peu plus de la communauté hassidique comme telle. Moi, j'ai l'impression que c'est probablement une des communautés religieuses qui se mêle le moins aux autres personnes. Pourquoi, au juste?
Ben, pourquoi? Parce que les Belges, c'est des gens qui ont été expulsés, disons, pas juste les Belges, mais du côté des hassidiques.
Ouais.
Par l'Espagne. Quand en Espagne, on a décidé dans les années 1100 que les Juifs devaient quitter le territoire. Ils ont été expulsés un peu partout et ils se sont regroupés dans certaines villes très précises, du côté des Satmars, du côté de la Hongrie, du côté de la Tchécoslovaquie, et on a développé des communautés en Europe de l'Est. Et ces communautés-là sont si serrées parce qu'ils sont constamment persécutés. Chez les Russes, ils étaient persécutés par les tsars qui étaient là. Pendant la guerre mondiale, j'ai pas besoin de vous faire de dessin.
Mais pourquoi?
C'était absolument horrible.
Mais nous, on leur veut pas de mal.
Ouais, mais pourquoi ils sont persécutés? Si partout ils sont persécutés. C'est...
Oui, et à ce moment-là, on s'est regroupés, mais c'est un état de fait parce que du côté des chrétiens, on disait jusqu'à une certaine époque, c'est les Juifs qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Faut pas oublier ça.
Ouais,
là.
Ouais.
On parle de très loin. Donc, c'est des gens qui ont appris à fonctionner dans des environnements que je pourrais qualifier d'un peu hostiles.
Hostile, ouais.
Et par la suite, tout le monde est après eux. Ben là, ils sont rendus ici, mais leur réflexe de vivre en communauté existe. Et il n'existe pas juste chez eux. Regardez les Québécois qui se retrouvent en Floride, ils vont se regrouper ensemble. Du côté des Italiens, on avait ça à Saint-Léonard, du côté des Grecs, du côté des Portugais. On a toujours tendance à se regrouper avec les gens
qui nous ressemblent.
Qui nous ressemblent. Puis là, on dit, parfait, on est ensemble, on parle la même langue.
Voilà.
On développe des langues, on développe une culture. Ils ont développé une culture extrêmement riche, avec des chants qui sont particuliers à eux. Puis même sur YouTube, si vous faites le bel, vous allez entendre des chansons qui sont propres à eux. Et on se développe une appartenance. Mais c'est des... Écoutez, puis même entre les Juifs hassidiques, faut se mettre ça clair. Tu as des chicanes. Comme un Satmar et un bel, en Israël, il va y avoir des émeutes. Ils vont se battre entre eux, parce que les Satmars veulent la destruction d'Israël, les Belges veulent la conserver.
Ouais.
Okay. Il y a vraiment des divisions. Un Satmar ou une Satmar ne mariera pas un Belge. Oubliez ça.
Alain, je t'arrête un petit peu, juste pour te poser une dernière question, parce qu'on doit s'en aller en onde après.
Mais en fait, on se demandait, au niveau de la communauté, comment ils font pour gagner leur vie? C'est quoi leur gang-pain? Est-ce qu'ils ont des business? Comment ça fonctionne?
Souvent, c'est le commerce. C'est qu'on va développer un commerce. On va dire, ben, écoute, on va se développer une boucherie cachère. On va se développer une boulangerie. On va refaire des tissus sociaux à partir. Il y en a qui vont travailler comme ambulancier. Fait qu'on va fonctionner. Il y en a d'autres qui disent, ben, écoute, ben, moi, j'étudie trop. Ben, moi, je vais toucher des allocations d'aide sociale. Vraiment, c'est tous ces mécanismes-là. On a tant d'enfants, on a droit à tant d'allocations familiales. Et il faut pas oublier qu'en Israël, il y a beaucoup de femmes hassidiques qui travaillent.
Okay. Ah oui?
Les gens pensent qu'ils travaillent pas. Non, ils travaillent. Chez les Belges, la particularité, c'est qu'on a décidé que les femmes ne devaient pas conduire d'automobile. Ah. Mais chaque communauté hassidique a ses propres, j'allais dire un peu ses propres règles, mais a son fonctionnement. Mais une des plus célèbres, c'est les Lubavitch, qu'on a beaucoup à Montréal.
Alain Pontkin, un immense merci de nous avoir éclairé un peu sur cette religion-là. Donc, ce soir, surprenez-vous pas s'il y a de l'animation dans Outremont. Il y a une grosse fête où on a aménagé une cuisine spéciale de 30 000 $. Wow. Il va y avoir des milliers de personnes qui vont aller danser avec
Ça doit vraiment être beau. Ça doit vraiment être intéressant à voir. Hein.
Puis moi, est-ce que je fais partie du clan McLeod maintenant?
Ben oui,
oui, ça
c'est fait, Alain.
Je suis dans le clan.
Et si jamais tu réussis à aller t'infiltrer dans la fête ce soir, ben tu nous en parleras lundi.
Ah, ça va être extrêmement difficile parce que c'est extrêmement fermé.
C'est bien gentil. Merci beaucoup, Alain.
Merci.
Merci. Bye bye. Tout de suite, la circulation avec Christine Beaudoin.